dès le 10 janvier, c'est très bientôt ça. À compter de 20 heures, vous allez pouvoir découvrir la série documentaire « Beauté rebelle » sur TV5, une série qui sera aussi disponible sur TV5 Uni. Et j'ai le plaisir d'en parler avec Carla Beauvais, l'animatrice de la série. Bonjour Carla.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien. Carla, vous êtes plein de choses, chroniqueuse, conférencière, militante pour la justice sociale, récipiendaire de distinctions comme la médaille de l'Assemblée nationale du Québec, le prix Femme de mérite du YMCA. Et puis aujourd'hui, on vous voit partout là, dans la presse et aussi dans Le Devoir. Vous êtes cofondatrice et directrice générale de la Fondation Dynastie, qui soutient et célèbre les personnes afro-descendantes. Une femme bien occupée, quoi.
Oui,
Carla.
Ça m'étourdit juste à vous écouter.
Oui, moi aussi, je suis étourdie juste à mentionner tout ce que vous êtes, finalement. Et pour la première fois, c'est vrai ça que vous animez pour la télévision, pour la toute première fois, c'est votre première expérience?
Oui, ça, c'est pas une légende urbaine, c'est vrai.
Et Carla, qu'est-ce qui vous a intéressée dans le concept de Beauté rebelle?
En fait, je pense que ce qui est venu me chercher tout de suite, c'est mon côté un peu militant. Ça fait des années que je suis vraiment impliquée socialement et ma priorité pour moi, ça a toujours été de faire rayonner les personnes marginalisées, d'être un porte-voix d'une certaine façon pour certaines réalités qu'elles peuvent vivre. Mm-hmm. Et en fait, la série qu'on me l'a présentée, c'était vraiment ça. Donc, même si j'avais pas d'expérience en animation, même si j'avais pas nécessairement de repères dans le monde de la série documentaire, une chose était certaine, c'est que j'avais envie d'aller vers ces personnes-là et de montrer leur réalité, parce que ça fait partie intégrante de tout ce que j'ai toujours fait professionnellement, mais aussi socialement.
Vous étiez donc familière avec cet univers de personnes marginalisées. Et moi, j'ai regardé le premier épisode, ça se passe au Japon. Vous arrivez donc à Tokyo pour rencontrer des enfants qui vivent avec un handicap et qui vont participer au concours Special Beauty Japan. Alors, racontez-nous un peu là, cet épisode, là, cette entrée en matière de cette série Beauté rebelle.
Bien, c'est super que ce soit le premier épisode qui est diffusé parce que c'est le premier épisode qu'on a filmé, qu'on a tourné.
Ah oui?
Oui, donc ça a été tout un baptême de feu, disons, la barrière de la langue, mais aussi tout cet univers que je connaissais pas. J'avais jamais voyagé au Japon avant ce tournage-là. Donc ça a été quand même assez émotif, je dirais.
Une sorte de choc culturel, choc psychologique, émotionnel.
Exactement, ouais, tout à fait. Puis c'est drôle parce que à l'époque, malheureusement, j'ai à cause de tout ce que vous avez énuméré dans mes fonctions, je suis plus nécessairement impliquée. Mais à l'époque qu'on a fait ce tournage-là, je siégeais sur le conseil d'administration de la Fondation Véro et Louis.
Oui.
Justement, qui mettent en place des maisons d'hébergement pour les adultes atteints d'autisme. Et donc, c'est une réalité à laquelle je suis proche, que je me suis impliquée beaucoup auprès de cette communauté de personnes. Et donc, le sujet est venu me chercher personnellement. Et aussi, ben, vous avez pu le voir aussi, j'ai une nièce qui vit avec certaines difficultés de développement. Et donc, ça a été un tournage, oui, hyper émotionnel dans le sens où est-ce qu'on apprend, on comprend très vite dès le premier épisode que Beauté rebelle, c'est loin d'être au sujet de la beauté. Je pense que c'est un prétexte, ces concours-là, de parler de réalité que vivent certaines personnes à travers le monde et d'aller beaucoup plus profondément, justement, par ce prétexte de parler de beauté pour parler de la différence.
Mm-hmm. Et continuez.
Oui. Et donc c'est ça pour le Japon, c'était ça, c'est de dans une société qui est très normative, où est-ce que l'apparence est très importante, de voir comment la différence est vue et traitée, puis à travers le regard d'enfant aussi, je pense que ça permet d'éveiller beaucoup de choses sur cette société japonaise.
Oui, parce qu'on veut pas nécessairement les montrer, les personnes en situation de handicap. On a comme une sorte de honte.
Exactement, exactement. Ce concours-là, il a été investigué par un monsieur qui s'appelle Jason, un Américain qui vit au Japon depuis plusieurs années, suite à un article qu'il a vu dans les journaux où est-ce que une personne a littéralement tué des personnes atteintes d'autisme dans un centre, parce que pour lui, ces personnes ne devaient pas vivre. Et c'est ça qui l'a
aberrant.
Motivée. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça qui l'a motivée à dire il faut qu'on soit capable de briser ces stigmas au niveau de l'autisme au Japon et d'être un support aussi pour les familles parce qu'il y a beaucoup de ces familles-là qui sont isolées par leur famille même et par la société. Donc, de créer cette communauté de support pour ces familles et d'être là comme un levier pour l'affirmation et le développement de ces enfants. Donc, c'est ça qu'on parle dans cette série-là, je prends l'exemple du Japon, mais à travers tous les épisodes, c'est comment, à travers ces concours-là, on est capable de créer des plateformes où est-ce que les gens peuvent revendiquer, mais aussi s'affirmer.
Alors, vous parlez d'autisme, mais vous rencontrez aussi des enfants trisomiques, des enfants aussi qui ont des troubles de déficit d'attention avec hyperactivité, là, qu'on qualifie de TDAH, c'est l'acronyme. Et puis, vous parcourez plusieurs pays. Parlez-nous des autres pays, à part le Japon, et des différentes conditions là, des participants au concours.
Donc, si je vais essayer d'y aller dans l'ordre, si ma mémoire est bonne. Après le Japon, on y allait à Las Vegas. Donc là, c'était un concours de burlesque, donc qu'on peut voir comme du simple effeuillage, des gens qui se dénudent sur scène. Et encore là, on apprend énormément dans cet épisode-là. Donc oui, sur l'affirmation de soi, de s'accepter dans son corps, on rencontre une femme, Little Peaches, qui danse, qui fait du burlesque en chaise roulante. Et pour elle, ça a été vraiment une façon quand elle a appris qu'elle souffrait d'une maladie dégénérative et qu'un jour, elle allait arrêter de marcher. Donc, elle dansait déjà auparavant, mais elle a décidé de faire du burlesque justement pour être capable de s'émanciper de ce corps qui dont elle n'avait plus nécessairement...
qui allait devenir une prison à un moment donné. Là.
Exactement. Et on la voit sur scène dans cette chaise roulante et de montrer à quel point cette forme d'art, parce qu'au-delà des gens, c'est pas du tout du striptease, mais cette forme d'art-là, ce qu'elle permet aux gens de réaliser dans l'acceptation de soi et dans l'acceptation de l'autre aussi par rapport à la différence. Donc ça, c'est pour l'exemple du Japon, Las Vegas. Ensuite, nous sommes allés au Paraguay. C'était des femmes en situation de surpoids, pas des femmes qui cherchent à perdre du poids, au contraire, des femmes qui s'affirment dans ce qu'elles sont, mais qui ont besoin justement de cette communauté pour être capable de passer à travers justement toute la problématique des problèmes de santé liés à l'obésité. En fait, on apprend qu'au Paraguay, c'est un endroit à travers le monde où est-ce qu'il y a plus de personnes qui souffrent d'obésité. Et ça se voit, on regarde juste les pancartes qu'on se promenait dans les rues, les pancartes des panneaux de publicité. Là, il y a vraiment énormément de publicités pour de la malbouffe, en fait, des chaînes de fast-food, etc. Et donc, c'est vraiment un problème de société, l'obésité. Et là, ces femmes-là sont, comme je dis, sont pas nécessairement là en quête de dire qu'elles veulent perdre du poids, mais comment on peut, accepter son corps tel qu'il est, parce que c'est pas nécessairement... Il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on fait une prise de poids. Ça peut être les hormones à un certain âge. Moi, je le vis présentement en ce moment. Donc, c'est ça. Et tout le côté, l'aspect, ils sont pendant 6 ou 7 mois, elles sont suivies par des psychologues, spécialistes, nutritionnistes, mais vraiment dans une démarche de vivre plus sainement.
En fait. Ouais. Alors, Carla, on passera pas nécessairement à travers les résumés de chacun des épisodes, mais vous vous promenez à travers plusieurs pays. Vous allez aussi rencontrer toutes sortes de personnes avec toutes sortes de conditions. En Afrique, l'albinisme hein, qui est traité dans l'épisode qui se déroule en Afrique.
Oui, c'est ça, au Zimbabwe. La particularité, c'est ça, c'est, le concours se passait au Zimbabwe, mais il y avait différents participants qui venaient de différents pays de l'Afrique, du sud de l'Afrique, en fait. Et là, on parle justement de la problématique de la stigmatisation des personnes qui sont atteintes d'albinisme, qu'on ne dit pas albinos, ce que j'ai appris en faisant ce tournage-là. Et voilà, aussi, c'est la même chose, c'est de comprendre les réalités sociales, politiques aussi, comment ce concours-là permet aux gens d'avoir même un impact sur les politiques qui sont mises en place dans les pays pour protéger les personnes qui sont atteintes d'albinisme.
Qui sont souvent ostracisées. Mais comment ces concours-là aident à combattre l'injustice et l'ostracisation, justement?
Je pense qu'une chose qui est super importante, je ne pense pas que la série va changer
Les mentalités.
les mentalités, mais je pense qu'elle va amener une certaine réflexion parce qu'on n'est pas du tout dans une démarche de débat ni de polarisation, en fait. On est vraiment dans une approche d'écoute.
Ouais.
Et je pense qu'on permet aux gens de s'exprimer pleinement et de vraiment de parler de leur réalité. Je pense que ça fait tomber certaines barrières. Et on le voit dans certains pays, comme au Japon, comme au Zimbabwe, il y a vraiment certains organisateurs qui prennent des actions concrètes avec les gouvernements pour faire en sorte que les choses évoluent. Et par rapport à nous qui regardons qui vont regarder cette série ici, personnellement, moi, ça m'a transformée à plusieurs égards. Et je pense que des gens qui vont l'écouter, qui peuvent avoir certains préjugés ou certaines incompréhensions, je pourrais dire, vont être sensibilisés et surtout touchés par les témoignages qu'ils vont entendre. Et je pense que c'est là que le changement se fait. Ça se fait dans les petites choses. Et quand on n'est pas dans le débat ni la polarisation, ça permet vraiment d'être en mode écoute et de vraiment pouvoir rentrer dans les univers et d'essayer de comprendre. Et moi, je pense que c'est ça le but principal de cette série-là, c'est oui de parler de beauté, de parler de différence, mais surtout d'acceptation.
Est-ce que vous, Carla Beauvais, votre conception de la beauté a changé au fil des rencontres, des tournages de Beauté Rebelle?
En fait, ce qui a changé, je pense que c'est de dire que c'est tellement pas important, en fait.
La beauté?
Oui, en fait, c'est vraiment ça. Je pense que si on faisait des vox pop, puis on posait la question justement, c'est quoi la beauté pour vous à des gens qu'on croisait dans la rue, puis si ça revenait souvent à la beauté c'est intérieur, la beauté c'est intérieur, puis ça on se disait ben oui, mais ça on le sait, mais plus, qu'est-ce que c'est de plus? Et je pense que moi, au niveau de ma réflexion, c'est vraiment, c'est tellement pas important, et ça crée tellement de souffrance. D'avoir ces normes, ces conceptions de ce que ça doit être encore parfait et tout, alors que c'est tellement pas important. Je pense que les relations humaines, c'est ce que moi je retiens de cette
Mais
expérience-là, c'est que les relations humaines, c'est ce qui est le plus important.
vous
C'est
dites que c'est
nourrir
pas
le cœur
important,
des gens.
vous dites que c'est pas important, mais en même temps, on peut se dire, bien, il y a quelque chose de paradoxal en mettant de l'avant des concours de beauté inclusifs.
Oui, c'est paradoxal, mais je pense qu'il y a pour les gens qui le font, ils ont. Je pense que la principale motivation, c'est pas nécessairement de montrer leur beauté, mais je pense que c'est de s'affirmer, de s'affirmer qui ils sont dans toute la globalité de ce qu'ils sont, et aussi de qu'on a. Je pense que quand on a vécu certaines choses, de certains certaines stigmatisations, ostracisation, je pense que le pouvoir juste de s'affirmer, d'être sur une scène et de revendiquer qui on est, je pense que ça a une force incroyable qu'il ne faut pas sous-estimer. Les gens ont choisi les concours de beauté comme plateforme, comme moyen pour exprimer cette fierté-là. Et moi, je ne suis pas là pour la juger, au contraire, mais je pense qu'il y a quelque chose de très empowerment, là, de dire, ben, malgré tout ce que j'ai vécu, je suis capable d'être debout aujourd'hui et d'être fière de qui je suis.
Et
Au-delà de l'aspect physique,
ouais.
mais je pense qu'il y a un aspect très psychologique de pouvoir se tenir debout.
Faut saluer aussi la réalisation d'Alexis B. Martin qui ne traite pas le sujet avec sensationnalisme, les participants comme des bêtes de foire non plus. Là, tout est fait dans le respect.
Oui, ça c'était très important au niveau de la production. Et je pense que de mon point de vue, malgré mon peu d'expérience, ce qui était important pour moi, c'était d'être humaine. C'était pas de me mettre à l'avant. C'était pas que je sois c'est parti. Oui, je suis là, mais en même temps, je donne la voix à ces personnes-là. Donc, c'est vraiment important. Puis je pense qu'Alexis a fait justement un travail incroyable d'aller. Il y a certains épisodes où est-ce qu'on aurait pu aller dans des zones un peu plus sensationnalistes. On parle de femmes trans. Il y a des choix qui ont été faits par la production, mais aussi par la réalisation de ne pas aller là pour pas entretenir certains mythes ou quoi que ce soit. Donc, je pense que ça a été fait avec un respect vraiment ça a été fait avec beaucoup d'humanité.
Et Carla Beauvais, j'ai vu un épisode, là, j'ai pas tout vu, mais on le sent tout de suite, cet amour des autres que vous avez, cette écoute, vous établissez des liens avec beaucoup de naturel, et ça, c'est pas donné à tout le monde, alors je vous lève mon chapeau. Est-ce que des concours semblables au Québec, est-ce que vous êtes au courant de cette réalité ou...
Au Québec, je ne suis pas... Non, je ne suis pas au courant s'il y a des concours similaires au Québec. Je pense que il y a vraiment eu un travail de recherche assez incroyable qui a été fait.
Oui, hein?
Oui. Donc, j'imagine que oui, mais pas ma connaissance, moi, personnelle.
Alors, ces 10 épisodes de 48 minutes, est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont particulièrement touché, une ou deux? La question qui tue.
Sincèrement, vous avez parlé tout à l'heure de Yumi, la femme qui a un restaurant au Japon, qui me reçoit chez elle. On a eu un moment, en tant que mère monoparentale, a eu un moment très touchant et on est toujours en contact jusqu'à aujourd'hui. On s'écrit régulièrement sur Instagram, oui. Il y a eu vraiment quelque chose d'instantané dans ma rencontre avec elle. Puis donc ça, c'est une des rencontres qui m'a beaucoup touchée. Ensuite, à la prison au Brésil, je dirais que toutes les femmes que j'ai rencontrées dans cette prison-là m'ont bouleversée.
Des femmes emprisonnées, pourquoi exactement? Mais il y a différents délits, j'imagine. Ouais.
Il y a différents délits, puis encore là, par respect pour elles, au niveau de la réalisation aussi, on ne parle pas nécessairement des crimes qu'elles ont commis. Mm-hmm. Il y a des choses qu'on peut sous-entendre, qu'on peut peut-être percevoir, mais on est vraiment pas rentré dans « Ah oui, pourquoi vous avez fait telle chose » ou « Est-ce que vous regrettez ?» On n'est vraiment pas allé dans cette zone-là. Mais il y a une femme, que je pense qu'on peut percevoir qu'elle a été victime de violences conjugales et qu'elle a possiblement... tuer son conjoint. Ça, c'est jamais nommé, mais on peut le
lire entre les lignes.
On peut lire entre les lignes, tout à fait. Puis, lorsqu'elle raconte justement le fait qu'elle a été séparée de sa fille, qui a aujourd'hui 7 ans, mais son enfant avait 4 ans à l'époque des faits, et qu'elle participe à ce concours-là, parce que normalement, ils peuvent voir leur famille une fois par mois, mais derrière un parloir. Et que grâce à ce concours-là, ben, les participants peuvent voir leur famille, puis les serrer dans leurs bras après le concours.
Ouais.
Puis qu'elle a fait ce concours-là pour ça. Le cœur.
Le contact. Les retrouvailles.
Le cœur de mère a juste comme. Je ne pouvais même pas contenir mes larmes. Là. Et ça, c'était une rencontre qui m'a vraiment bouleversée. Quand j'en parle, j'ai encore des frissons. Mais c'est ça, c'est cette série-là. Il y a des rencontres plus heureuses à Marseille. Il y a un jeune qui s'appelle Nadir, jeune queer, vraiment toute une énergie débordante. Encore là aujourd'hui, on se parle encore sur les réseaux. Ils ont eu la chance de voir l'épisode en avant-première avec la productrice qui était à Marseille, justement. Donc, elle a réuni le groupe, ils l'ont vu, puis... Ça a été vraiment transformateur pour eux aussi. Donc, c'est ces rencontres-là qui nous marquent à vie. C'est une expérience là, que je vais garder précieusement avec moi.
Alors, de belles rencontres auxquelles nos auditeurs et auditrices sont conviés. Beauté Rebelle, présentée à partir de vendredi à compter de 20h sur TV5 et aussi, ce sera disponible sur TV5 Uni. Et en terminant, Carla, le 22 janvier, vous allez publier Haïti, A-Y-I-T-I, Histoire de chef. Que propose ce livre en quelques phrases?
Oh mon Dieu, c'est un projet de vie, un autre.
Ah oui, il va falloir vous réinviter.
Ah oui, mais...
Ça nous ferait plaisir.
Ça serait vraiment génial de pouvoir en parler plus longuement, surtout dans le contexte social, politique d'Haïti en ce moment. Mais c'est vraiment une lettre d'amour à Haïti, ce livre-là. Donc j'ai réuni 13 chefs.
Des chefs cuisiniers?
Des chefs cuisiniers, oui. Donc c'est un livre de recettes. Mais qui est entrecoupé de passages qui parlent de l'histoire d'Haïti, la culture, et toute sa richesse, toutes ses richesses, en fait, à travers mon regard, parce que j'ai eu la chance de vivre pendant 3 ans. Et ce projet-là cogite en moi depuis 2013. Et là, c'est ça. C'est vraiment une lettre d'amour à ce pays qui, malheureusement, traverse des moments hyper difficiles, mais qui est tellement beau. Donc, on voulait vraiment faire honneur à cette patrie et à travers ce livre-là. Donc, les gens vont pouvoir découvrir, oui, des recettes, mais découvrir aussi cette riche culture.
Donc, le livre sera disponible à partir du 22 janvier. Carla Beauvais, merci pour cette entrevue. À une prochaine.
Merci à vous. Bonne année.
Bonne année à vous aussi. Au revoir.